Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 19h, c'est l'heure du Canu Info. Aujourd'hui, on va parler de la manifestation de demain, parce qu'on manifeste, non mais.
Ensuite, on ira à Waraka, où il y a 8 morts, et on recommence un peu comme il y a 10 ans, peut-être.
Ensuite, on aura une chronique numérique.
On ira faire un tour à Notre-Dame-des-Landes, où le référendum, au sujet du référendum qui va se tenir dimanche.
Et ensuite, on aura une rubrique Faut que ça se sache.
La rubrique des migrations et des luttes sans papier. Alors voilà, ils ont essayé, mais décidément rien ne marche comme il faut pour ce gouvernement. Ils auront essayé donc d'interdire la manif parisienne de demain pour la transformer en rassemblement statique, donc plus contrôlable, pour éviter, dans leur dire, les débordements des casseurs. Alors le Premier ministre s'interrogeait sur le fait qu'il pourrait interdire les manifestations. Le ministre de l'Intérieur demandait aux organisations syndicales de transformer l'éternelle bastination annoncée pour jeudi en ce rassemblement statique. Mais l'intersyndicale a refusé, les intellectuels se sont offusqués, les militants se sont préparés, les caricatures ont plu, les trucs sur internet dans tous les sens. Et voilà, de fait, nous vivons un peu une espèce de petit tournant là dans la pratique répressive du gouvernement français. L'État réprime donc des pratiques d'action directe, mais pas seulement. Il réprime clairement les dernières tentatives de ce mouvement ouvrier et travailleur qui disparaît contre l'ultra-libéralisation de nos conditions d'existence dans notre phase du capitalisme actuel. Car l'ensemble des médias nous focalise sur les cortèges de têtes, sur les émeutes, la fascination des violences, des flics ou de ces actions des gens cagoulés, au point de faire disparaître tout le reste du cortège. La tête offensive des manifs contre le travail est crainte autant que fétichisée. Car pourtant, des pratiques de blocage économique menées en lien avec les militants et militantes CGT, Solidaires, etc., un peu partout en France, main dans la main parfois avec des militants anti-autoritaires, sont essentiels dans la construction de cette lutte. Et c'est aussi ces pratiques de lutte syndicale qui sont attaquées dans la volonté d'interdire de manifester. Il faut pas se foutre de nous. Mais bon, finalement, donc, ça manifeste. Ce matin, c'était non, maintenant c'est oui, blabla, ça manifeste alors. Le long du bassin de l'Arsenal. Alors, pour qui ne connaît pas Paris, c'est un charmant canal à côté de Bastille, comme ça, avec plein de petits bateaux de plaisance, très touristique. Bien loin des banques, je pense pas qu'il y en ait une seule, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de... ça évite. Mais quand même, en début de manif, bam, le commissariat du 4e arrondissement. Ce qui, quand même, voilà, hein, quand même, faut bien le dire. La manifestation va donc suivre un parcours proposé par le ministère de l'Intérieur, a annoncé Philippe Martinez, le boss de la CGT, lors de la conférence de presse organisée par l'intersyndicale. Le cortège fera une boucle de 1,6 km entre la place de la Bastille et la place de la Bastille, le long du bassin. Alors, selon des estimations Google Maps, ce trajet à pied peut être réalisé en moins de 20 minutes. Alors, c'est pas vraiment un rassemblement statique, hein. Mais bon, ou alors c'est presque un rassemblement statique, mais ça donne l'illusion que non, on sait pas trop. En tout cas, les syndicats semblent contents d'eux, car ils n'ont pas laissé passer, ils n'ont pas accepté. Certains font passer ça pour une victoire. Je me permets de rester perplexe. En tout cas, bon, voilà, un parcours d'un même un petit kilomètre là qui va, j'espère, avoir du mal à contenir l'affluence, si affluence il y a, of course. Espérons en tout cas que ça rendra pas Paris trop sage pour autant. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé de cette incroyable journée pleine de rebondissements là.
Alors moi je trouve que parmi les arguments qui est avancé pour le gouvernement pour interdire la manifestation, la transformer en rassemblement statique ou la transformer en rien du tout, il y avait entre autres ce fameux euro de foot qui nous sert tellement à toutes les sauces que depuis qu'on en a entendu parler, ça a commencé par la prolongation de l'état d'urgence qui était tellement nécessaire à cause de l'euro de foot. Puis maintenant, c'est compliqué de faire des manifestations parce que les flics sont crevés à cause de l'euro de foot et que le gouvernement nous parle euro de foot, il en a plein la bouche et il en a plein la bouche aussi parce que il sait ou il pense au minimum pouvoir compter sur une sorte de sympathie complètement généralisée, de complicité, y compris de gens qui vont manifester et dont le gouvernement espère que quand même ils sauront à un moment ou à un autre voir quelles sont les vraies priorités et que les vraies priorités soient d'abord celles d'aller voir des pélos courir pour des millions derrière un ballon.
Et oui. Et pour voilà. Manger un peu de thunes avec les touristes et soutenir l'équipe de France.
C'est ça. Et donner une image correcte de la France, parce que tout ça étant bien sûr mêlé à tout un discours sur l'image de la France, la compétitivité de la France, les emplois de la France, Mais bon, voilà. Non, mais c'était juste un petit truc que j'avais envie de rappeler aux camarades qui peut-être nous écoutent et qui ont payé très cher leur place pour eux-mêmes filer quelques. Ajouter leur petit denier aux euros qui sont payés aux joueurs ou qui servent à faire des chèques.
Qui sont donnés à l'UEFA alors que ça a été détaxé d'impôts, par exemple.
C'est ça.
Alors, en tout cas, les opposants à la loi travail ne défileront pas seulement à Paris demain. Il y a des manifestations et des arrêts de travail qui sont programmés un peu partout dans le pays. Les appels locaux à la grève ont été lancés notamment à La Poste, à Orange, à EDF et même à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Alors, peut-être quelque chose, en bref, je sais pas. L'aviation, ça me fait toujours un peu vibrer. En tout cas, sur Lyon, l'intersyndicale Rhône, CGT, CNT, CNTSO, FO, FSU Solidaire et UNEF appellent à une manifestation demain, 23 juin à 13h, à la Manufacture des Tabacs, le rendez-vous habituel de ces derniers mois. Ce sera direction Place Lyoté, là, vers le 6e, chez les Bourges. Ce sera suivi à 16h... de l'Assemblée de lutte à la Bourse du Travail. Et petit ajout local, à Saint-Thé, il y aura une journée de grève d'action aussi à l'appel de l'intersyndicale, rassemblement à 18h à la Bourse du Travail, mais qui sera axé beaucoup sur la répression du mouvement, les violences policières et bien sûr quand même contre la loi de travail, on nous promet même de la musique.
On part maintenant dans l'état de Oaxaca, au Mexique, où la répression d'une manif de profs dimanche dernier, il y a trois jours, a fait, alors selon les sources, hein, parce que selon les journaux, on ne trouve pas le même nombre, mais 6 à 9 morts et plus d'une centaine de blessés. Quand je dis selon les sources, il y a quand même un article qui parle de 3 morts, tiens, c'est l'article du Figaro. Dès le lendemain, le lundi, plusieurs milliers de profs venus de tout l'état de Oaxaca ont refait une manif pour protester contre ce massacre. Alors voilà, c'est dans la communauté de Nochixtlan, c'est un nom mexicain un peu aztèque là, Nochixtlan, que les profs avaient dressé une barricade pour bloquer une route. Ces profs protestaient contre une réforme dans le goût complètement libéral de mise en danger permanente des salariés en précarité permanente, un truc qui est censé renforcer la rentabilité, donc là on est bien en train de parler de rentabilité pour les profs, hein. L'idée c'était des évaluations permanentes des profs et le risque tout le temps d'être foutu à la porte et de fait des mises à la porte en masse. Alors déjà dans tout le pays et en fait dans tout le continent, il y a des gens qui apportaient leur soutien au mouvement, c'est-à-dire il y a des intellectuels aussi de pays avoisinants qui apportaient leur soutien avant ce massacre de dimanche. Mais donc dimanche, voilà, les profs avaient mis une barricade pour bloquer une route, les flics ont attaqué. Selon une témoin interrogée par le site américain Democracy Now, ils ont attaqué sans la moindre sommation et ils ont immédiatement commencé à tirer dans le tas. Alors, ils étaient quand même nombreux, hein. La presse parle de 800 flics et tout ça, c'était pour réprimer 1000 manifestants. Les militants parlent aussi de dizaines de disparus, de 21 personnes arrêtées, 45 personnes à l'hôpital et plus d'une centaine de blessés. Alors quand on dit disparu dans un pays comme le Mexique, ça veut généralement dire qu'ils sont aux mains de la police, mais que la police ne veut pas le reconnaître, en tout cas dans un premier temps. La pratique montre que c'est pas tout à fait impossible qu'un jour ou l'autre ils reviennent en vie. Alors en vie, c'est une chose pas forcément en bon état quand même. Mais il y en a certains qui peuvent revenir en vie. Bon, au Mexique, on se rappelle quand même que des fois, ils ne reviennent pas en vie. Il y a deux ans, il y a eu cette histoire d'une quarantaine d'étudiants qui partaient à une manifestation et qui, eux, quand même, on n'a même jamais retrouvé leur corps. Le gouverneur de l'état de Oaxaca parle, pour expliquer pourquoi les flics se sont mis à tirer sur la manif, parle de radicaux infiltrés, des gens extérieurs à la manif, qui eux auraient commencé à tirer sur les flics. Et les flics n'auraient donc fait que répliquer en état de légitime défense. Et ce gouverneur est bien désolé pour les profs qui se sont fait buter. Et le président de la République du Mexique, lui, il a présenté ses condoléances aux familles parce que la répression était bien involontaire et bien obligée. Et cette répression est due aux casseurs qui infiltrent le mouvement. C'est pas comme si c'était un discours très typiquement mexicain, finalement.
Eh oui.
Mais bon, voilà, c'est un discours qui sert un petit peu partout. Alors bien sûr, les personnes qui se sont fait buter, c'est des profs, hein, des profs qui n'avaient rien de casseurs extérieurs ou je sais quoi, des manifestants pacifiques. Bon, quand on dit pacifique au Mexique, ça n'empêche pas qu'ils avaient cramé un bus ou des choses comme ça. Mais globalement, au Mexique, on parle de non-violence tant que les gens n'ont pas des flingues.
Ouais.
Bon, donc là, il s'agissait de manifestants non-violents. Ceux qui se sont fait buter, c'était des manifestants non violents. Alors, preuve que les flics visaient mal, hein, s'ils ont été attaqués par des gens qui, eux, avaient des armes. Ou preuve, comme disent les témoins à l'intérieur de la manif, preuve plutôt que les fameux radicaux armés jusqu'aux dents n'existaient tout simplement pas. Alors la répression à Waraka, ça renvoie étonnamment à l'histoire d'il y a 10 ans. Hein. C'était il y a 10 ans quasiment jour pour jour, puisque c'était le 14 juin 2006, que déjà à l'occasion d'une grève des profs qui avait instauré un planton, c'est-à-dire une sorte de campement de grève, sur la place centrale de la ville de Waraka, les flics étaient intervenus. La population était sortie en masse pour se solidariser avec les profs, avait réussi à repousser les flics, et de là avait commencé une sorte de gigantesque mouvement avec manifestations, avec attaques, contre-attaques, avec prise de radio, puisque au départ il y avait la radio Planton sur la place, mais cette radio ayant été détruite par les flics, les protestataires se sont emparés de la radio de l'université, cette radio ayant essuyé des tirs dans son émetteur. Après ils ont pris une dizaine d'autres radios, puis une télé. Et en gros, pendant 6 mois, ils ont tout simplement autogéré la ville. Bon, ça a été au prix d'une dizaine de morts à ce moment-là. Et voilà, ça c'était en 2006, c'était il y a 10 ans. Bon, bah là, on va bien voir ce que ça va donner, la manif de dimanche, les massacres. Mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que les morts par balle à l'intérieur de la manif, ça n'a découragé personne. Et que les manifestants du lendemain pour protester contre la répression n'étaient plus un millier comme le dimanche, mais plusieurs milliers. On ne sait pas bien plus, la presse ne nous dit pas plus. Mais en tout cas, voilà, le nombre des manifestants a été plusieurs fois multiplié, juste parce que... parce que des gens s'étaient fait buter.
Juste parce que...
Oui. Oui. Oh, mais non, ouais, oui. Ouais.
Tac, tac.
Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous.
Leurs armes, des ordinateurs. Leur but, déstabiliser les gouvernements avec le site Wikileaks, vider vos comptes bancaires, paralyser des centrales nucléaires avec des virus. Les pirates.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, comment s'en servir? Comment maîtriser ces nouveaux outils de communication?
On les dit capables de détruire n'importe quel système informatique. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Alors, ce soir dans les chroniques numériques, on va parler d'un étudiant qui a découvert une faille il y a quelques semaines sur l'appli SNCF. Donc, l'appli, c'est la sorte de petit logiciel qui se trouve dans les smartphones, qui sert à acheter des billets de train. Et sur cette appli, vous pouvez acheter un billet de train, ne pas l'imprimer et juste avoir un QR code, les codes que vous voyez partout maintenant, qu'on appelle aussi des flash codes.
Les machins carrés qui ressemblent à des dessins de Rorschach.
Voilà, plus ou moins.
En
ouais.
Plus carré.
En plus carré, mais voilà, ces dessins-là. Et vous montrez ce QR code au contrôleur qui le valide et voilà, et donc c'est votre billet électronique. Cet étudiant, il a découvert qu'il pouvait prendre le train avec son QR code, le montrer au contrôleur et le faire valider et ensuite se le faire rembourser. Donc il l'a fait 2-3 fois sur des trajets et puis quand même il l'a signalé à la SNCF. Alors bien sûr la SNCF nous dit que oui on sait mais les personnes se font toujours prendre pendant ou après le trajet. Donc c'est un peu bizarre, en général quand on est au courant d'une faille, on essaye de la résoudre informatiquement et pas en envoyant des amendes chez les gens, mais soit. Et elle va le récompenser par un colis contenant des goodies relativement symboliques, il précise quand même Voyage SNCF. Donc des goodies, on imagine déjà les porte-clés I love SNCF ou des autocollants Merci Pépi ou des choses comme ça.
Quel vénard.
Voilà, ce type aurait quand même pu voyager gratuitement à vie, lui, ses amis, toutes ses connaissances. Mais il a préféré être honnête, aller en parler à la SNCF. On rappelle quand même qu'en général, les firmes comme Facebook, Google ou Twitter... Ils encouragent beaucoup ces pratiques, ils ont des programmes de récompense en fonction du niveau de la faille qui est découverte. Le mois dernier, Facebook a payé 5 000 $ par exemple pour la découverte d'un bug sur son réseau Instagram. Voilà, donc à titre d'exemple, c'est quand même pas vraiment la même chose. Mais la SNCF ne voit pas de problème, on est déjà content pour ce pauvre étudiant qui n'ait pas eu à rembourser ses billets.
systèmes informatiques. Pourtant, on murmure aussi que ce sont eux qui les ont construits. On les appelle des hackers.
Et sur une photo publiée hier pour fêter les 500 millions d'utilisateurs d'Instagram, donc Instagram, réseau social de photos, vous situez à peu près. C'est pas très grave de toute façon, qui est une filiale de Facebook.
C'est un peu connu quand même, même moi j'en ai entendu
parler.
Voilà,
je me dis ça à la limite, si vous savez pas ce que c'est que c'est pas grave. Ouais. Mais bon, c'est un réseau social qui est une filiale de Facebook, et du coup on voit Mark Zuckerberg, qui est donc le patron et créateur de Facebook, poser pour remercier ses 500 millions d'utilisateurs. Et il pose donc avec son ordinateur portable derrière lui. Et son ordinateur portable, qu'est-ce qu'on peut voir dessus ? Que la webcam est recouverte d'un scotch opaque, ainsi que son micro. Donc on a un peu envie de lui dire, Marc, c'est bien, c'est vachement bien. C'est vachement mieux qu'il y a quelques années, quand il s'était fait pirater deux fois, à pourtant bien des mois d'écart, ses comptes, parce qu'il utilisait le mot de passe très sécurisé « da-da-da ». Mais on est un peu déçu que Facebook continue à collecter et croiser des informations de navigation, par exemple, les sites sur lesquels vous allez, même si vous n'êtes pas inscrit sur Facebook, ils peuvent faire ça quand même, du moment que vous êtes déjà allé sur une de leurs pages et que les pages sur lesquelles vous naviguez contiennent un bouton sur lequel vous pouvez cliquer pour partager sur Facebook ou dire que vous aimez sur Facebook. C'est-à-dire aujourd'hui, pratiquement toutes les pages que vous pouvez trouver sur Internet.
Ah ouais?
Voilà, du coup, quand vous êtes sur ces pages, eh ben, Facebook le sait, peut croiser les données, soit si vous êtes son utilisateur, il peut les collecter, les croiser avec vos cercles, vos réseaux, et donc connaître à peu près toute votre vie. Hein. Ce que peut connaître Facebook sur les gens aujourd'hui, c'est assez effrayant. Et du coup, on est bien content que Mark Zuckerberg, lui aussi, se préoccupe de sa propre vie privée, même s'il espionne complètement celle des autres, et mette un gentil petit scotch opaque sur sa webcam. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour toutes vos webcams.
Mais est-ce qu'on sait si derrière, quand ils collectent toutes les données, qu'il faut les croiser, ils n'ont pas des logiciels en place pour faire ces croisements, etc.
Ah si, ils croisent les données pour ensuite pouvoir donner de la publicité en fonction des utilisateurs, en fait.
Et ils vendent le listing. Et du coup, il y a des logiciels qui font tout ce travail.
Et bien, a priori, oui, c'est pas des personnes derrière qui vont faire, c'est des logiciels. Ce qui est fait, par exemple, par Google, qui fait que moi, si sur mon ordinateur, je fais une recherche Google et que toi, sur ton ordinateur, tu fais la même, on n'aura pas les mêmes résultats. Parce que toute notre navigation, que Google fait la même chose que Facebook, hein, elle est, tous les éléments qu'on fait, ils sont croisés, les sites dont on a l'habitude, nos idées politiques, Nos préférences alimentaires, nos préférences sexuelles, tout, ils savent à peu près déterminer ça. Et donc, les liens qu'ils vont nous proposer ou les publicités qu'ils vont nous proposer, elles sont adaptées en fonction de ça.
Mais il faut cliquer sur le lien Facebook qui est présent sur une page?
Non,
même pas.
Le fait même d'être sur une page sur laquelle il y a ce lien, même si tu n'es pas inscrit sur Facebook, du moment, il me semble que, par contre, à un moment, il faut que tu sois allé voir une page Facebook pour avoir le cookie sur ton ordinateur, mais sans être inscrit, enfin une page comme une autre. Et on arrive souvent aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne postent que sur Facebook. Donc des fois, pour voir une information ou quelque chose, tu vas aller sur Facebook sans avoir de compte. Et ensuite, il y a un cookie dans ton ordinateur qui permet de leur renvoyer toutes tes informations de navigation du moment qu'il y a ce bouton sur le site. Voilà, donc encore une fois, on ne saurait trop conseiller de se désinscrire de Facebook et de ne pas désactiver son compte, mais de se désinscrire simplement.
Et j'ai encore une petite question de vulgarisation. Tu disais que si avec son ordinateur il faisait la même recherche que toi, il n'aurait pas les mêmes résultats. Est-ce que c'est la même chose s'il fait la même recherche en amenant son ordinateur dans ta maison?
Oui, non, je pense que c'est sur l'adresse IP. Du coup, je pense que c'est la connexion.
C'est la connexion.
Ça, j'en jurerais pas, mais je pense que c'est déterminé par ta connexion Internet, donc par ton adresse IP, ce qui est celle de ton... Enfin, il y a aussi la définition de l'ordinateur. Je sais pas. C'est une très bonne question.
Moi, j'en ai encore une autre, alors. Tu parlais des cookies, justement. Si tu es déjà allé sur Facebook et que derrière, après, tu voudrais qu'il n'y ait pas ça, est-ce que tu peux supprimer ces cookies?
Oui. Oui, tu peux simplement, du moins avec Mozilla, les autres, je ne sais pas trop. Mais oui, a priori, dans les paramètres, c'est assez simple, en général, d'avoir accès à une suppression des cookies.
Et là, ça fonctionnera pour supprimer ce suivi de fichage-là.
Comme tous les autres, voilà. Okay. Mais très vite, il va revenir. Enfin, le premier conseil à donner, c'est de ne pas aller sur des pages Facebook et de ne pas utiliser des navigateurs comme Google. Après, si Google et les autres trucs comme ça marchent si bien, c'est parce que ça nous arrange d'un côté que les réponses elles soient adaptées. Mais si on veut un navigateur qui ne poursuit pas tout ce qu'on est en train de faire, il y a par exemple Quant, qui est un navigateur qui chiffre l'adresse IP, donc qui ne sait pas qui fait quelle recherche et qui du coup va donner des trucs très objectifs. Enfin, en fonction de eux, les sites qui vont donner en premier ou quoi, c'est eux par leur algorithme qui vont définir ça. Mais par contre, ça ne dépend pas des autres recherches qu'on a fait ou de notre historique de navigation.
Alors, on sait que c'est dimanche que va se tenir finalement, du moins quand je suis rentré dans le studio, on était encore en attente du dernier résultat du tribunal administratif pour le référendum de Notre-Dame-des-Landes. Bon, on ne se fait pas trop d'illusions sur ce résultat. Le référendum va avoir lieu dimanche. On a retrouvé un petit texte fait par les opposants à l'aéroport, alors de très très large, hein, ça va de Europe Écologie Les Verts aux zadistes les plus radicaux, qui s'était mis d'accord sur un texte sur le référendum, et qui nous dit ceci. Le texte date de... Il date de avril. Qui nous dit que peu après les mobilisations extrêmement fortes de décembre, janvier, février 2016 contre les expulsions qui avaient été programmées, le gouvernement a tenté un stratagème. Alors d'une voix, il annonce une étude sur les solutions alternatives à la construction de l'aéroport, ça c'était bien l'actualité cet hiver, et de l'autre il présente la tenue d'un référendum qui est bientôt renommé consultation. Bien sûr, comme entre-temps et suite à cette histoire de solutions alternatives, il y a aussi le fait que le projet, on n'est plus trop sûr si un projet a deux pistes, à une piste, etc. Bien sûr que le référendum reste complètement vague là-dessus, et donc les gens sont appelés à donner une réponse qui n'est pas claire du tout à ce sujet. Bon, au même moment, les habitants de la ZAD sont devenus tous expulsables, hein, c'était aussi en février, et des entreprises ont répondu à l'appel d'offres du chantier. Alors, sans entrer dans les détails techniques de cette consultation, les zadistes et les différents opposants à l'aéroport posent quelques questions. Et donc, par exemple, la question sur le fait que l'État est à la fois juge et parti, puisque l'État est à la fois porteur du projet d'aéroport et organisateur de la consultation. Et donc, c'est les mêmes personnes qui mènent le projet de transfert de l'aéroport de Nantes Atlantique à Notre-Dame-des-Landes depuis 15 ans et qui détermineraient aujourd'hui la formulation de la question et le périmètre de la consultation, c'est-à-dire quelles zones géographiques seront appelées à répondre au référendum. Et tout ça en fonction d'une étude déjà réalisée sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils savent à peu près quelles zones vont être plus ou moins favorables au projet. D'un côté, on nous parle de projet d'État, c'est-à-dire un projet qui concerne la nation française, et de l'autre, on parle quand même d'une consultation locale, parce qu'on sait bien que quand même, si on étendait le référendum à toute la France, bon, sans doute que beaucoup de gens s'abstiendraient tout bonnement, mais que ceux qui iraient voter seraient massivement des opposants au projet. Et à Bure, par exemple, c'est avec ce même argument, l'argument du projet d'État, que les opposants à la poubelle nucléaire se sont vus refuser un référendum local. Donc voilà, ce qui marche à Notre-Dame-des-Landes, ça ne marche pas à Bure. Bure, donc, où il y a un projet d'enterrer des déchets nucléaires.
Et où il y a une ZAD aussi.
Alors, comment ne pas observer que la consultation et sa forme sont édictées selon les besoins des porteurs du projet? C'est ce que demandent les opposants à l'aéroport. Toujours ces porteurs du projet, bah eux, ils disposent de l'argent et des institutions qui leur permettent de faire campagne. Et comment est-ce qu'on pourrait leur faire confiance alors que, à peine élu, le conseil régional de la Loire-Atlantique a déboursé 60 000 euros d'argent public pour une pétition falsifiée et des pubs qui demandaient l'expulsion de la ZAD. Alors cette histoire de pétition falsifiée, c'est que du
ça
coup...
Ça a l'air sexy, vas-y, développe.
Hein ?
Ça a l'air sexy, ouais, ça développe.
Et ben c'est qu'ils ont lancé une pétition sur Internet, bien sûr. Une pétition pour demander l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes. Alors quand même, comme à Notre-Dame-des-Landes, il y a deux ou trois personnes qui sont un petit peu geeks, elles sont allées voir qui signait la pétition. Et il s'avérait qu'il y avait quand même un certain nombre d'adresses, tout bêtement d'adresses mail, qui avaient signé des dizaines de fois, et ensuite que pour une adresse IP, il y avait des dizaines d'adresses mail. Autant dire que une personne pouvait signer des centaines de fois la pétition en prenant vaguement le soin de ne se faire passer que pour quelques dizaines de personnes. Bref, cette pétition, c'était de la merde de A à Z. Ils ont aussi payé vraiment des encarts de pub et tout ça, et donc... Ils ont fait tout ça avec 60 000 boules d'argent public, alors que du coup c'était vraiment une sorte de campagne de pub pour des intérêts complètement partisans sur l'histoire. Et donc, ils refusaient depuis des années la communication, donc les porteurs du projet, ils refusaient depuis des années la communication des documents essentiels, des documents qui avaient servi à asseoir la déclaration d'utilité publique, mais qui donc étaient malgré tout complètement secrets. Ils ont caché une étude qui démontait complètement l'argumentaire pseudo-écologiste sur le lac du Grand Lieu, qui est un des lacs qui doivent être détruits. Et voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait leur faire confiance alors qu'ils n'ont pas arrêté d'utiliser leur pouvoir pour cacher toutes les informations qui n'allaient pas dans leur sens ? Comment est-ce qu'on pourrait leur faire confiance alors que Valls lui-même a bien dit que la consultation avait pour objectif de légitimer le début des travaux ? Et de toute façon, tout le monde a bien pu constater en 2005, avec le référendum sur le traité constitutionnel européen, ce que le pouvoir fait quand le peuple vote mal à un référendum, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre. Ah, vous allez me dire, c'était pas le même pouvoir. Et bah, première nouvelle, si on pouvait faire plus confiance au Parti Socialiste qu'à Sarkozy. On pourrait se dire en réalité qu'on peut beaucoup moins leur faire confiance parce que finalement Sarkozy a quand même beaucoup moins trahi de promesses.
Tu vas loin.
Non mais je veux dire, Sarkozy avait dit je ferai une politique de faf, il a fait une politique de faf. Oui. Les socialistes ils ont dit on fera une politique de gauche, ils font une politique de faf.
Certes.
Alors, quelle légitimité, continue le texte, ont les procédures liées à la déclaration d'utilité publique que nous avons par ailleurs longuement dénoncé, dont nous avons par ailleurs longuement dénoncé les insuffisances, mais qui seraient confortées ou balayées d'un trait de plume par un scrutin purement consultatif et sans aucune valeur juridique. Un recours qui a été fait auprès de la Cour d'appel concerne les mesures de compensation prévues incompatibles avec la loi sur l'eau et la loi sur les espèces protégées. C'est-à-dire que là, on est encore dans un truc où l'État, d'un coup, brandit l'État de droit, et à un autre moment, on n'a vraiment rien à foutre de l'État de droit, des institutions, des décisions juridiques, de tout ça, et passe tout bêtement outre, sans plus de préoccupation que ça. Une procédure contentieuse initiée par la Commission européenne est toujours en cours. Donc voilà, elle est toujours en cours, on n'a toujours pas de réponse. Des procédures d'expulsion ont été menées à leur terme contre les habitants et paysans de la ZAD sans attendre la fin des procédures juridiques. Un appel d'offres a d'ores et déjà été pourvu pour faire avancer les travaux. Quelles collisions, demandent les signataires du texte, vont avoir lieu entre les décisions juridiques de ces instances et les résultats de l'éventuelle consultation? Que devient donc ce fameux état de droit que les porteurs du projet nous renvoient en permanence? Mais, disent-ils, notre légitimité n'est pas là. En cas de réalisation du projet, des terres seraient sacrifiées et des fonds publics gaspillés pour un grand projet public nuisible. Les lois protectrices de l'environnement seraient définitivement nulles et non avenues, les zones humides et la biodiversité massacrées. Toutes les expérimentations menées sur la ZAD, tout ce qui s'y est construit serait écrasé au nom du profit et d'un modèle de développement que nous récusons, mais en réalité que de plus en plus de gens récusent à travers le pays. Un oui ou un non sur la seule question de l'aéroport ne saurait de toute façon exprimer, disent-ils, notre exigence d'autre choix de société. L'annonce de la consultation ne change rien ni à la légitimité de notre combat, ni à notre détermination à obtenir l'abandon définitif du projet de Notre-Dame-des-Landes. Pour que vive la ZAD, ses paysans, paysannes, habitants, occupants, etc. Le 2 avril 2016, bim.
Et là, vous ne le voyez pas, mais il avait le bras levé en finissant de lire sa petite chronique. Et tant qu'on est dans les ZAD, moi je me disais, j'ai rajouté parce que j'ai vu ça tout à l'heure, sur celle de Roibon, il y a un bouquin qui vient de sortir par la maison d'édition Le Monde à l'envers, maison d'édition grenobloise. Et si vous intéressez à avoir envie de lire un petit peu de littérature autour des ZAD, vous pouvez le trouver, je pense, dans les bonnes librairies, notamment à La Griffe, avec certitude.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre qu'on soit vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Je dégueule les lois mises en place.
Mise en place.
sait. Eh bien, cette petite rubrique « Il faut que ça sache » va commencer par une loi de merde, une belle loi de merde.
C'est souvent pour cette chronique. Hein.
Ouais. Alors, et comme souvent, quand on va parler de loi de merde, il va falloir un tout petit peu s'accrocher pour que ce soit bien compréhensible, car le droit français, et on n'est pas sans le savoir, est totalement transparent, très facile à comprendre et bien entendu à la portée de tout le monde quand on fait la vaisselle dans sa cuisine. Donc, cette loi de merde, et ben, elle concerne, là, ça part d'une histoire privée, comme souvent. C'est un Chibani algérien de 72 ans qui est menacé d'expulsion par une décision de la préfecture de Haute-Garonne qui date du 20 mai 2016. Et qui lui refuse le renouvellement de sa carte de séjour, mention retraité. Les services préfectoraux lui reprochent d'avoir séjourné trop longtemps en France quand les caisses de retraite demandent de ne pas séjourner trop longtemps hors de France. Alors voilà, c'est un peu le cœur de ce problème qu'on va essayer d'évoquer pendant quelques minutes. Monsieur Douara, car c'est son nom donc, est titulaire d'une carte portant la mention retraité depuis 2005. Alors, selon l'article L317.1 du CESEDA, je cite, « L'étranger qui, après avoir résidé en France sous couvert d'une carte de résident, a établi ou établi sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, bénéficie à sa demande d'une carte de séjour portant la mention « retraité ». Cette carte lui permet d'entrer en France à tout moment pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Elle est valable 10 ans et est renouvelée de plein droit. » Ouh, j'espère que vous avez fini votre assiette. Vous pouvez passer à la vaisselle suivante. En fait, du coup, rien n'interdit donc aux titulaires de ces titres de séjourner en France, y compris pour des périodes longues et répétées, pourvu que les séjours successifs n'excèdent pas un an par séjour. Mais l'administration a estimé que M. Douara, qui louait une chambre dans une résidence à Doma, là, et, ou encore qui bénéficiait de droits sociaux, et bien que ça suffisait à démontrer qu'il avait établi sa résidence en France, et du coup, ça justifie le refus de lui renouveler son titre de séjour. Si vous ne comprenez rien, c'est normal, puisque c'est fait pour. Ça n'a aucun sens. Et en fait, l'administration, en gros, oppose le fait de rester trop longtemps en France, au risque de perdre le titre de séjour, et les caisses de sécurité sociale, du coup la CAF, la CPAM, la CARSAT, somme de ne pas rester trop longtemps dans le pays d'origine, au risque de perdre des droits sociaux. Du coup, dans l'affaire de M. Douara, là, la préfecture s'était déjà illustrée en refusant de lui délivrer son récépissé de renouvellement de son titre, alors que la législation prévoit pourtant que ça avait à être fait, au motif, alors là c'est super, au motif que l'informatique ne fonctionne pas pour délivrer des récépissés aux titulaires de cartes de retraité. Alors voilà, en fait, c'est pas la loi, c'est le réseau informatique de l'administration qui met des bâtons dans les roues, mais qui fait sa loi à lui tout seul. Alors, il est du coup resté sans titre de séjour pendant les 11 mois de l'instruction.
Alors même que la préfecture est censée donner une réponse dans ces cas-là en 4 mois maximum.
Tout à fait, c'est exactement la parenthèse que j'avais derrière mon truc, t'es super.
Top.
Et donc voilà, 11 mois, et après ça, bam, je vous le donne dans le mille. Qu'est-ce qu'ils ont fait la préf, parce qu'ils reculent devant rien? Eh bien, ils ont retenu cette période de 11 mois pour démontrer qu'il avait séjourné plus d'un an en France.
Parce qu'il faut bien comprendre que sans récépissé et donc sans aucun papier, le moment où il pose sa demande, ça veut dire que son papier précédent n'est plus valable. Donc théoriquement, à ce moment-là, il a un récépissé qui lui permet d'aller et de venir. Dans la mesure où il n'a plus ni papier ni récépissé, évidemment qu'il n'est pas retourné au bled parce qu'on ne l'aurait juste pas laissé rentrer à nouveau, puisqu'il n'aurait rien eu à montrer pour pouvoir rentrer en France. Donc effectivement, il est assez vraisemblable qu'il est resté pendant ces 11 mois en France. Presque un an.
11 mois, presque un an. Presque un an, beaucoup trop long. Ouh, ça frise. En tout cas, dans la mesure où les premières cartes de séjour mention retraité ont été délivrées il y a une dizaine d'années maintenant, le collectif Justice et Dignité pour les Chibani et Chibania s'inquiète de la possible multiplication de ce type de refus de renouvellement. En effet, il est évident que la quasi-totalité des titulaires de ces cartes de séjour louent des logements, quand ils reviennent en France, ou tout au moins des chambres en résidence sociale de type Adoma, donc, et bénéficient aussi de certains droits sociaux, comme toutes les personnes qui ont travaillé assez longtemps en France, notamment protection maladie, aide au logement, etc. Du coup, selon le raisonnement de la préfecture, eh ben, ils pourraient à partir de maintenant donc tous et toutes être expulsés.
Et en fait, ça fait quand même des années que la France essaye systématiquement d'économiser 3 sous sur les maigres retraites des Chibani, qui sont globalement des gens qui ont passé leur vie active à travailler en France.
Et qui ont droit à construire les tunnels sous la Manche, les trucs et les machins, les grands projets d'aménagement.
C'est exactement ça, et qui du coup ont droit à une retraite versée par la France, mais à coup de chicane administrative, la France passe son temps à faire tout ce qu'elle peut pour éviter de leur verser cette thune à laquelle ils ont quand même vraiment complètement droit. Et il y avait déjà eu une grosse campagne en 2008. À l'époque, c'était énormément sur le fait que les Chibani s'y retournaient passer, il me semble que c'était 3 mois de suite au bled. Et ben on leur disait, ah non, mais vous résidez plus en France, vous avez plus droit à la retraite. Et c'est donc, ce problème a été en partie amélioré. Mais bon, ils continuent à toujours pas avoir le droit de passer trop longtemps au bled, et par contre à pas avoir le droit de passer trop longtemps en France non plus. On les contraint en quelque sorte, alors même que du coup c'est des retraités, et c'est des retraités de plus en plus vieux, on les contraint à prendre l'avion assez régulièrement, sous peine de plus avoir le moindre sou de rentrée d'argent, quoi.
L'avion qui n'est toujours pas gratuit, avec leur maigre pension.
Ça sache.
Alors, pour dénoncer la politique migratoire de l'Union européenne que Médecins sans frontières trouve honteuse, là je cite, l'association a refusé ces fonds venant de l'Europe. Alors bon, c'est quand même, vous le savez, c'est quand même pas l'association la plus gauchiste qu'on connaisse, mais ils ont quand même fini par craquer. Ils jugent que les politiques sont trop basées sur la dissuasion et le refoulement des migrants. Pour MSF, c'est aller beaucoup trop loin avec l'accord d'Ankara. Alors, on le rappelle, c'est l'accord négocié avec la Turquie, entre la Turquie et l'Europe, où Erdogan a promis de garder les migrants sur son sol en échange de plein de pognon. Hein. Donc ça, c'est vraiment pour faire court, et tout un tas d'autres trucs. Il leur en aura fallu beaucoup, vous me direz, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, dans une interview avec Libé, Médecins sans frontières nous apprend également que ce genre d'accord avec la Turquie sont également en cours avec 16 autres de pays africains et du Moyen-Orient. Alors par exemple, il y a le Soudan, l'Érythrée et l'Afghanistan.
C'est pas les origines et qui sont ciblées en général en ce moment dans le pays.
C'est ça. C'est pas du tout des effectifs. Enfin, c'est effectivement des endroits où les gens ont plutôt tendance à fuir leur pays. Parce qu'il n'y a que dalle là-bas. Quoi.
Alors que, je ne me rappelle plus quel était le ministre qui nous avait sorti ça, s'ils étaient courageux, et ben ils se battraient pour que leur pays redevienne meilleur.
C'est ça. donc ces négociations sont toujours dans le but de contenir les personnes qui tenteraient de se barrer de leur pays, ou alors de bloquer les personnes qui transitent par ces pays pour rejoindre l'Europe. On rappelle que comme ça, c'est un truc qui se faisait déjà et qui se fait encore dans plein de pays, notamment on se souvient de la Libye avec Kadhafi en plein moment où il y a eu la révolution en Libye, tout ça là. Kadhafi a menacé d'abord de balancer plein d'infos sur les financements de la campagne de Sarkozy et tout ça, et aussi de lâcher tous les gens qui étaient notamment dans des centres de rétention en plein désert. On en avait parlé plusieurs fois dans cette émission, dans des conditions franchement dégueulasses. Et du coup, il avait menacé de lâcher tout le monde et de ne plus retenir les gens qui essayaient de traverser la Méditerranée par la Libye. Et effectivement, on a vu que quand Kadhafi est tombé et que du coup c'était un peu le joyeux bordel en Libye, ça a fait qu'il n'y avait plus du tout de politique de contrôle, tout ça. Et effectivement, ça devenait un espèce de point de passage pour venir en France ou en Europe. Donc ça c'est effectivement des trucs, des négociations politiques qui se faisaient et qui sont un peu toujours faites. Là ça a l'air de prendre effectivement un peu une autre ampleur, notamment avec la Turquie où ça faisait vraiment un gros accord et voilà. En gros le principe il est simple, hein, c'est si le pays accepte et font les choses bien, ils auront de la thune, et s'ils font les choses mal, et ben ils auront plus de thune. En général ça va pas avec des accords de faciliter les visas, si ou alors pour les personnes...
Si pour la Turquie il y avait bien ça dans l'accord.
Ah, oui c'est vrai,
ouais, il avait stipulé, ouais.
Mais je doute que par exemple pour le Soudan, l'Érythrée et l'Afghanistan on va faciliter l'accès à des visas en France, peut-être sauf pour les classes... très très aisé, quoi. Voilà. Bon, mais en tout cas, pour revenir au refus de budget de Médecins Sans Frontières, ne vous inquiétez pas trop non plus, hein, même si les fonds que leur verse l'Union Européenne sont de 56 millions d'euros, c'est toujours que 5% de leur budget. Donc ils ont quand même, j'ai pas fait le calcul, mais un budget conséquent. Donc voilà.
Alors, les fantaisies techniques qui n'en finissent pas. On va finir cette rubrique à Calais par une petite brève que j'ai transformée en quiz pour vos oreilles ébahies, chers auditeurs et auditrices. En fait, on a appris que, via le collectif qui s'appelle Nous ne céderons pas à Calais, on a appris l'interdiction d'accès au territoire français d'un convoi humanitaire anglais qui était destiné aux réfugiés en attente d'asile dans les environs de Calais. Ce convoi devait prendre le ferry à Douvres, donc en Grande-Bretagne, le samedi 18 juin. Cette interdiction lui a été annoncée par la délégation à Douvres de la police des frontières française. Et alors, on arrive au quiz, pour justifier cette mesure inacceptable, les autorités ont invoqué A. la coupe de l'UEFA, B. l'état d'urgence, C. les relations via le référendum sur le Brexit.
A, B, C.
Alors ça marche tout le temps en ce moment.
Eh bien non. L'excuse ultime restera encore et toujours ce fucking état d'urgence. C'est bien lui qui a été invoqué.
Vaut mieux qu'ils évoquent cette excuse qu'ils peuvent reconduire ad vitam aeternam plutôt que
les... C'est vrai qu'ils auraient pu profiter de la Coupe d'Europe pour revenir un petit peu à l'état d'urgence et que c'est presque une espèce de goût de frais.
C'est ça.
D'ici au mois de juillet. Parce que comme ça, ça leur permet de faire un petit break, de changer et puis bam, de revenir. Mais non. Donc toujours et encore cette espèce de loi martiale pourrie qui refuse même du coup des colis de bouffe aux réfugiés de Calais.
Il faut que ça se sache.
Et pour du coup vraiment finir cette chronique.
Ah oui, pardon.
Non, c'est pas grave, mais moi j'avais oublié. On rappelle qu'il y a une permanence juridique de soutien aux sans-papiers qui se déroule tous les lundis à 18h. Et ça se situe à la Lutine, au 91 rue Montesquieu, dans le 7e arrondissement, métro Saxe. C'est à 18h30, on me fait signe. Il y a eu une erreur dans mes notes. Donc, c'est tous les lundis à 18h30 à la Lutine au 91 rue Montesquieu, Lyon 7e, métro Saxe. C'est pour les personnes qui ont des soucis avec leurs papiers. Il y en a énormément. Et voilà, c'est une équipe de gens qui sont pas forcément juristes, mais en tout cas, il y a des gens qui sont bien formés pour filer des coups de main. Du coup, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez n'importe quoi comme question.
Ou à faire tourner l'info si vous avez des personnes qui ont des problèmes de papier.
Allez, on répète l'info. 91 rue Montesquieu, les lundis soirs, quelle heure ?
18h30.
Eh bien, on va pas tarder à laisser la place à Idée Noire. Bon, en réalité, il y a encore un petit quart d'heure pendant lequel on va vous laisser avec un petit peu de musique, puisque nous, on a à peu près fini ce qu'on avait à vous raconter.
Oui, tout à fait. On t'entend pas beaucoup, elle est forte, la musique, là.
Oh, tu crois ?
Ouais.
Attends, ah ouais. Alors, j'ai qu'à la mettre un petit peu moins fort, ouais. Comme ça. Toujours est-il qu'avant de vraiment se barrer, on va vous rappeler que vendredi soir, si vous ne savez pas quoi faire, alors est-ce que c'est pour tout le monde ? Eh bien, on dirait que oui. Vous pouvez toujours vous rendre à la soirée organisée par l'émission On n'est pas des cadeaux, l'émission Transpédéguine du vendredi sur Canu, vendredi 17h, un vendredi sur deux, 17h sur Canu. Et cette soirée aura lieu à Rita Plage, c'est au 68 cours Tolstoy à Villeurbanne, c'est à partir de 20h, et là vous aurez un spectacle, un repas vegan, et puis toutes ces choses de soirée transpédéguine, certainement une petite boum, de la musique à gogo, des paillettes, etc. Et ça fera la petite thune dont l'émission a besoin pour payer sa cotisation et ses petits autocollants une fois de temps en temps.
Très bien.
Et ben, il est 19h46.
On vous souhaite une excellente soirée sur Radio Canu ou ailleurs.
Et puis on vous retrouve la semaine prochaine.
Tout à fait.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao. Allez, ciao.